Ma copine me dit.
Voyons, pourquoi t'as fermé la radio?
Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Au travail, j'ai parlé de mon problème à Jean-Steve. Il a toujours de bons conseils.
10% de ta paye, drette dans un CELI.
Il m'a parlé d'une radio.
Connais-tu ça, Boulevard 102?
Je lui ai dit que non. Il m'a dit.
Non, faut que t'écoutes ça.
Bref, maintenant j'écoute Boulevard 102. Merci, Jean-Steve.
Boulevard
102.1. Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Chaque lundi, on a le plaisir de retrouver Maître Marc Bellemare pour son commentaire de la semaine. Maître Bellemare, bonsoir.
Son commentaire, j'espère que j'en aurai pas juste un.
Ben, vous venez d'en faire un, là. Fait que c'était tout pour nous. Passez une belle fin de soirée.
Bon, ça tombe bien, j'ai une grosse soirée en perspective.
Est-ce que j'ai bien entendu tantôt, pendant qu'on jasait, pendant la pause, vous avez fait plus de 1000 km de vélo?
Ben, à date cette année, oui.
J'ai honte de moi-même quand j'entends ça. J'en ai pas fait un. J'ai juste fait de la moto, moi, cet été. J'ai pas fait vraiment de sport extérieur.
Écoute, 1000 km, là, ça veut dire, mettons,
10 fois 1000
tu fais 40 km une journée, fois 3, ça fait 120, fois 8 semaines, ça fait 960. Alors,
c'est quand même beaucoup, là.
Oui. Puis moi, je fais souvent le chemin Saint-Louis jusqu'à l'extrémité, je pars à peu près là, des Pères Maris, là.
Oui.
Jusqu'à l'extrémité du chemin Saint-Louis, là, je prends la rue Francœur, après ça, je prends Versandard jusqu'à Duplessis, puis là, je reviens. Puis quand je reviens, c'est toute une côte, là, ça monte là, pendant 7-8 minutes, là, je vais dire que tu ne dépasses pas bien 15 km/h. Mais je me promène entre 15 et 35 km/h, dépendant des vents, puis dépendant des angles de la côte, là. Mais je regardais là, les Olympiques, là, les gars roulent à une moyenne d'à peu près 55-60 km.
Ah non, c'est des machines.
Écoute, non, mais j'ai jamais de ma vie roulé à vélo à 55 km. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà roulé à 55 km/h sur un vélo. Quand tu regardes ça à TV, là, le Tour de France puis les Olympiques, tu n'as pas l'impression qu'ils roulent si vite que ça. Parce
non,
que
ça a de l'air facile.
Tu vois des badauds du monde autour. Ouais. Et ça encore, j'ai pas encore compris comment ça se fait qu'ils tolèrent du monde autour, parce que je me dis, moi, je me promène à vélo, puis des fois, je vois du monde sur le trottoir, puis je me dis, bon, maintenant, un malade qui m'aime pas ou qui aime pas mon vélo, qui aime pas les cyclistes, il décide de me pousser, ça pourrait arriver, tu sais. Alors, tu sais, au Tour de France, c'est des athlètes aux Olympiques, puis le monde est là à côté, ils peuvent quasiment leur toucher quand ils passent à côté. Je trouve ça spécial. À un moment donné, ils vont interdire ça parce qu'il va y avoir, il va arriver des accidents.
Je sais pas. Mais quand même, 1000 km, moi, je trouve ça exceptionnel. Vous avez fait Québec-Montréal, Montréal-Québec, Québec-Montréal, Montréal-Québec. C'est fou, là!
Ouais, c'est 250 km aller, effectivement. Donc, ça fait 500 fois 2. Puis là, je pense que je vais faire encore un 700-800 peut-être. Ça dépend de la température, évidemment, mais. Normalement, moi, jusqu'à 15 degrés, à partir de 15 degrés, je suis correct. Mais quand ça baisse en bas de 15, j'y vais pas parce que je suis pas capable de rouler avec un manteau ou avec autre chose que mon chandail. Là, t'sais. Le chandail, c'est assez. Le cellulaire dans la petite poche en arrière du siège. Pas de bouteille. Rien pour être le plus léger possible.
Ouais. Il y a un auditeur un auditeur qui me pose la question, Maître Bellemare, est-ce que vous rasez les jambes? C'est peut-être ça qui fait la différence là, entre la vitesse que vous n'êtes pas capable d'atteindre et la vitesse que vous êtes capable d'atteindre. Ouais.
C'est ça qu'on m'a dit, raser les jambes, raser le chest aussi. Je ne sais pas où c'est juste, j'ai vu ça. Ils ont tout le chest rasé. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, ben sais-tu, c'est la friction, c'est ci, c'est ça. Ben, écoute, non.
Il y en a qui nous disent que c'est pour les blessures. Il y en a qui nous disent que c'est pour les blessures. Il y en a d'autres qui disent que c'est pour justement atteindre une certaine vitesse parce que ça crée une certaine retenue dans l'air avec le poil. Mais bref, je ne sais pas. Peut-être que vous pourriez vous raser les jambes, Maître Bellemare. Ça augmenterait vos capacités au niveau de la vitesse. OK. Est-ce que vous avez un véhicule qui est électrique ou c'est semi-électrique ou pas partout?
Non, moi, j'ai un vélo de route, un Marinoni que j'ai acheté il y a une vingtaine d'années parce que j'avais un vieux Peugeot avec les vitesses. Tu avais des espèces sur la barre, transversale, tu avais des espèces de manches là, que tu relevais puis tu baissais pour changer de vitesse. Et à un moment donné, j'ai fait la randonnée de Garneau dans le temps. Je ne sais pas si ça existe encore, la randonnée Garneau à Saint-Augustin. Et puis, il y a un de mes chums qui me dit, Marc, achète-toi un vélo qui a de l'allure, achète-toi un beau Marinoni. C'est fabriqué à Montréal, pièce sur pièce. Ce n'est pas industriel. C'est encore, à mon avis, parmi les meilleurs vélos. C'est léger. C'est québécois. C'est un Québécois qui a parti ça, puis c'est super. Et je me promène avec ça, puis c'est pompé, là, le pneu d'en avant est pompé à peu près à 105, le pneu en arrière à peu près à 115 de pression, puis c'est dur comme de la roche, puis parfait. Mais je vais te dire, le maire Marchand, là, qui dit qu'on a des pistes cyclables à Québec, puis qu'on a un bon réseau, je pense que c'est vrai qu'on a un bon réseau dans l'ensemble. Mais j'inviterais le maire Marchand à faire la piste cyclable du chemin Saint-Louis. Entre le pont, entre les ponts, puis la rue Maguire. La rue Maguire. Je vais te dire une affaire, là, c'est un sport extrême. C'est très dangereux. Il y a des trous partout. Il n'y a pas de place pour passer. Et puis, ben, je ne sais pas, c'est son dernier voyage à New York, je ne sais pas combien ça a coûté, mais on aurait peut-être pu mettre ça sur la piste cyclable du chemin Saint-Louis.
Il y a un peu de
On aurait eu
rénovation à
moins de
faire.
risques d'accident.
OK. Hey, Maître Bellemare, comme premier sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu passer aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'on avait jasé, vous et moi. La fameuse licence là, pour les chats que les propriétaires de choix de chats, en fait, auraient dû se procurer. On dit qu'il y a 130 200 chats. Ça, c'est le nombre de félins sur le territoire municipal. Et il y a 8 043 chats qui ont été enregistrés. Donc, la majorité des propriétaires de chats sont des gens qui ne respectent pas les lois qui ont été mises en place par le maire Marchand qui nous oblige à à enregistrer nos chats au coût de 12 $ annuellement. On nous dit que les propriétaires sont obligés de le faire depuis 5 mois. Je vais me livrer, Maître Bellemare. Regardez, là, j'ai deux mains dans les airs.
Oui, t'as un chat que t'as pas, mais toi, déjà t'as pas.
Avant que la Gestapo arrive chez nous, là, j'ai deux chats non enregistrés, Maître Bellemare.
Moi là, toutes les. Écoute, on s'entend, là, tous les registres, puis les registres, là, on ne parlera pas de la bombe, tous les registres, je suis contre ça. Sauf si c'est des registres pour diffuser l'identité des pédophiles, des agresseurs sexuels, des violeurs d'enfants, des batteurs de femmes. Ça, je suis gagnant. Mais les registres, de façon générale, je suis contre ça. Toute l'histoire nous enseigne depuis 50 ans que les registres, ça a toujours été des patentes à gosse compliquées, des obligations farfelues. Et on a toujours eu des coûts astronomiques pour gérer tout ça. On a assez de fonctionnaires, là. Pourquoi on va engager du monde à la Ville de Québec pour tenir un registre, pour mettre des chats dedans, si ce n'est pas pour aller chercher de l'argent? Mais je suis convaincu que ce système-là que la Ville de Québec a mis en place coûte plus cher que ce que ça leur rapporte à 12 pièces du choix.
Non,
Convaincu.
ben actuellement, ils ont ramassé, de ce qu'on comprend, moins de 100 000 $ là, avec la fameuse Gestapo des chats. C'est 96 516 $ qu'ils ont réussi à amasser en plus. Donc, c'est 96 516 $ qui tombera dans les poches de la Ville de Québec à chaque année en raison des propriétaires de chats qui se sont enregistrés. C'est comme ceux qui devaient s'enregistrer là, pour ce qui est de leur poêle et foyer, là, dire exactement ce qu'il y avait chez eux. On dirait que ces gens-là prennent pas connaissance. Puis c'est peut-être moi qui est pas un assez bon citoyen puis qui pense tout le temps sale, mais mon métier fait en sorte que je dois toujours penser sale. Si la municipalité dit vous devez enregistrer votre poêle et foyer parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous avez chez vous, mais l'objectif qu'ils ont, c'est que si jamais il y a une interdiction de faire des feux, Maître Bellemare, les premières maisons qu'ils vont visiter à savoir si on respecte le règlement que la Ville de Québec vient de mettre en place, c'est-à-dire l'interdiction de faire des feux à l'intérieur de nos maisons pendant 2, 3, 4 jours, ben les inspecteurs vont passer sur les adresses qu'ils connaissent où il y a des feux, là, où c'est possible de faire des feux. C'est comme si on donnait comme notre emplacement, là. Et moi, je n'embarquerai jamais dans leurs affaires. Puis bien honnêtement, mes chats sont tout le temps dans la fenêtre. Fait que quand la Gestapo des chats va passer, je vais certainement me faire pogner. Là, l'administration Marchand dit que que c'est 10% l'objectif pour cette année. C'est le porte-parole Jean-Pascal Lavoie qui a mentionné ça. Et ce qui représente à peu près 13 000 chats enregistrés pour 2024. Ils vont possiblement réussir à arriver avec à 10%. Mais j'ai bien hâte de voir si ça va être l'entière majorité des propriétaires de chats qui vont se plier à la demande du maire marchand. Là.
Mais c'est pourquoi? Parce qu'un chat, c'est assez inoffensif. Là. C'est quoi pour contrôler la maladie? C'est quoi l'argument? Là, si c'est pas pour taxer.
Ben,
pourquoi ils ne taxent pas, je sais pas, moi, tout le monde à une pièce plutôt que d'obliger les propriétaires de chats? Là,
la façon dont ils nous avaient vendu ça, Maître Bellemare, puis ils l'avaient fait d'une piètre façon, là, mais c'est le maire marchand. Il avait dit que la litière, traiter la litière, c'est un petit peu plus difficile que de traiter le reste des poubelles et ordures qu'on envoie aux. Qu'on envoie à l'incinérateur de Québec. C'était comme une façon à part de s'occuper de la litière. Donc, ça coûtait plus cher. Puis, il avait dit, ben vous allez devoir... Mais la réalité, Maître Bellemare, c'est qu'ils ne sont pas capables d'arriver avec le trop d'argent qu'on leur envoie. Puis, ils se cherchent des patentes à gosse pour nous surtaxer.
Oui, c'est ça. Tu as raison. As-tu vu la question des plaques d'immatriculation aussi? Des gens qui échappent à des infractions parce que leur plaque n'est pas lisible.
Oui, j'ai vu ça passer, oui. Oui,
c'est un maudit bon truc, ça. Puis il y a une photo, c'est le Soleil qui rapportait ça samedi. Des milliers de dossiers liés à des radars photo sont rejetés chaque année à cause de plaques d'immatriculation sales, enneigées ou endommagées. C'est donc bien une bonne idée, ça. Tu pensais à ça?
Non,
c'est sûr que tu n'as pas le droit, de cacher ta plaque volontairement. Ouais. Tu ne peux pas mettre une plaque de bois vis-à-vis de ta plaque d'immatriculation parce que tu dois être en mesure... Le code de la sécurité routière exige, quand tu es dans ton véhicule, puis même autrement, même quand tu es immobilisé, qu'on puisse lire ta plaque. De la même façon que tes vitres ne peuvent pas être trop teintées, il faut qu'ils soient capables de voir c'est qui le bozo qui conduit trop vite. Là. Ça, c'est normal. Mais là, effectivement, on monte une plaque là, qui a l'air d'être un peu beurrée, là. Pour moi, le gars, il arrive d'une pourvoirie, je ne sais pas trop, il est allé dans la boîte, et on dit des milliers de dossiers liés à des radars photos sont rejetés chaque année. Et selon le Soleil, plus de 20 000 usagers de la route échappent à des contraventions chaque année grâce à des plaques sales, illisibles, une situation qui prive l'État de millions de dollars. Mais toi, t'es déjà arrivé de pogner un radar photo?
Oh, j'ai pris le radar photo, moi, c'était sur Dufresne-Montmorency, à l'endroit même où la famille a été décimée, là, le gars qui était chaud, qui a tué une famille au grand complet, là, ça leur a donné une occasion de dire, OK, à cet endroit-là, on va devoir mettre un radar photo pour essayer de prévenir ça, mais le gars, il était complètement saoul, fait que ça n'a aucun lien. Mais je me suis fait prendre là. D'ailleurs, c'est devenu le radar photo le plus payant du Québec, fut un temps. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais de ce que je me souviens, c'est il y a de ça quelques mois, on nous rapportait que ce radar photo-là, sur Dufresne-Montmorency, c'était le radar le plus payant. Puis oui, moi, il voit ma plaque, mais dans le cas des plaques illisibles, Maître Bellemare, c'était depuis le sac-clic. Parce que maintenant, vous pouvez garder la plaque du propriétaire du véhicule que vous achetez. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a plus vraiment de renouvellement de plaque automatique. Quand vous alliez à la SAC avec le propriétaire, lui, il arrivait avec sa plaque d'immatriculation ou encore, il disait, ben moi, je vais garder ma plaque, je vais la détruire. Puis à la SAC, ben, il vous donnait une plaque en métal qui était neuve. Puis là, vous pouviez la garder pendant plusieurs années. Mais si votre plaque a 10 ans, parce que vous l'avez eu avec ce véhicule-là, que vous revendez votre véhicule, puis l'autre propriétaire reprend cette plaque-là, avec le soleil et tout ça, la couleur bleue peut effectivement décolorer. Puis ça, c'est comme un plastique, là. Je ne sais pas c'est quel matériel que c'est exactement, mais il vous reste juste le métal en dessous, puis ça donne un résultat blanc et gris. Là. Puis oui, le lecteur de plaque a un peu plus de difficulté, là, mais les policiers sont très à l'affût de ça, mais avec le sac-clic, des fois, on voit des véhicules qui ne sont pas plaqués puis qui ont juste un morceau de papier dans la fenêtre. Je me demande comment les policiers font. Est-ce qu'ils arrêtent tous les individus qui ont des morceaux de papier dans la fenêtre ou encore tous les individus que leur plaque n'est pas super lisible? C'est une bonne question. Là. Ça occasionne du travail supplémentaire pour eux, certainement. Là. C'est important pour le policier de savoir c'est qui est dans ce véhicule-là avant de faire une interception. Ouais.
Mais là, s'ils savaient c'est qui est dans le véhicule, ils pourraient te coller des points et des mérites. Éventuellement, ça va peut-être en venir là. Mais écoute, bien objectivement, on n'aime pas ça, les photoradars, Yann. Mais en tout et moi, là, c'est une maudite belle invention pour le gouvernement, tu sais, ben, pour les villes.
Pour ramasser les taxes.
Écoute, là, il y a un pogne du monde, c'est flash, flash, flash.
Moi,
l'autre fois, j'étais sur le droit de la capitale, je revenais en soirée, il était à peu près 9h30, je suis allé voir un film au Ciné Beauport, Cinéplex Beauport. Puis je rentrais à Québec. Puis à un moment donné, j'ai vu que ça flashait en avant de moi, à peu près à peut-être un quart de kilomètre. Là. J'ai vu que ça flashait. Fait que j'ai baissé ma vitesse, j'ai pas eu de problème. Mais j'en ai déjà pogné des tickets à cet endroit-là.
Mais je suis pas contre ça, les photoradars, Maître Bellemare. Au contraire, je suis pour ça. Mais dans des endroits où c'est justifié, si vous me parlez de zone scolaire, Maître Bellemare, mettez-moi des photoradars pendant les heures où les jeunes sont là, j'ai pas de problème avec ça. Si vous me parlez des quartiers résidentiels où il y a des photoradars, mettez-le là, j'ai pas de problème avec ça. Mais sur l'autoroute, c'est des attrapes négo. C'est tout simplement
pour... Mais pourquoi ils n'en mettent pas aux endroits stratégiques, comme tu dis? Là, Mme Guilbeault, l'année passée, là, qui nous faisait un gros show médiatique à Montréal, quand il y a une petite Ukrainienne de 7 ans qui a été frappée, ou 7 ou 8 ans, qui a été frappée par un bozo qui allait trop vite avec son gros pick-up là, noir, là. Puis on avait vu les photos dans la presse, là. Elle a annoncé des mesures pour resserrer la sécurité routière, augmenter les amendes. Puis là, la grosse affaire, parce que là, il y avait eu un décès tragique d'une jeune fille, d'une jeune étudiante. Mais pourquoi ils ne mettent pas des photoradars, effectivement, dans les zones scolaires, là? Parce que là, c'est les rentrées à l'école cette semaine, là. Hein? C'est la grosse affaire, là. Tout le monde rentre à l'école, à peu près dans tous les niveaux scolaires, primaire, secondaire, cégep, université même. Mais... on n'a pas de photoradar. En tout cas, moi, je demeure sur le chemin Saint-Louis, là, pas loin de Saint-Jean-Berquemance, les Maris, Jésus-Marie. Il y a plein d'écoles sur le chemin Saint-Louis, puis je n'ai pas vu de radar, là.
C'est
parce que les parents vont chialer, puis ils ont peur que les parents chialent. « Ah, oh, ça m'a coûté cher de crayons puis de cahiers cette année, puis en plus, vous me collez une étiquette de 150$, gna gna gna, mais là, à un moment donné. » T'as raison, c'est des enfants, puis c'est des zones scolaires, c'est le temps d'agir.
C'est pas une étude scientifique là, que je vous cite là, Maître Bellemare, mais moi, ce que j'ai constaté, là, c'est que les gens qui roulent le plus vite dans ma rue, c'est bien souvent mes voisins.
C'est les parents.
C'est des gens qui savent exactement où sont les maisons avec des enfants, puis ils se sentent plus en sécurité, donc ils vont plus vite. Parce que les gens qui ne connaissent pas le quartier vont être portés peut-être à un peu plus ralentir, mais ceux qui savent exactement où les enfants sont, ils vont rouler plus vite. Donc moi, je serais pour les photoradars dans les zones scolaires et les quartiers résidentiels sans aucun problème. Mais je reviens, parce que je l'ai sur le cœur, celui qui est sur Dufresne-Montmorency, coin François de Laval. Moi, cette histoire-là, puis je pense que vous avez... on en a parlé régulièrement de cette histoire-là, de cette famille décimée. J'ai trouvé ça triste, épouvantable. Mais c'est un gars complètement saoul qui les a ramassés puis qui les a malheureusement tués. Puis le photoradar n'aurait rien pu changer à ça, Maître Bellemare. Absolument rien.
Ouais. Il y en a un qui n'est pas pire aussi. À l'entrée, quand tu rentres à Québec, tu es sur la 20 à Saint-Romuald. Là, à Charny, il y a comme deux espèces de gros grillages, là. Mais sais-tu quoi? J'ai l'impression qu'il n'est pas fonctionnel.
Oh, il fonctionne.
Tu penses?
Oui, oui, il fonctionne.
Parce que l'autre fois, je suis rentré là à peu près à 110, puis je n'ai pas eu de nouvelles.
Je pense qu'on en a déjà parlé, là. Moi, c'est un policier qui s'occupe de la programmation de ce type d'appareil-là. Puis c'est les 10 derniers... C'est les 10 derniers qui ont passé qui vont te donner une vitesse moyenne. Ce qui fait en sorte que s'il y a une tempête de neige puis tout le monde se promène à 60 km/h dans ce secteur-là, si vous passez à 90 km/h, vous allez être flashé.
Ouais.
Donc, c'est vraiment là, tout le temps les 10 derniers chauffeurs. Fait que si tout le monde est à 110, Maître Bellemare, vous allez passer à 110 sans aucun problème, ça ne flashera pas. Mais si vous passez à 120, là, ça va flasher. Si tout le monde est à 90, puis là, vous passez à 110, c'est clair que ça va flasher.
OK. En tout cas, j'ai remarqué que tout le monde ralentit pas mal avant de rentrer sur le pont. C'est sûr que là, en quelque part, tu roules, tu arrives de Montmagny, puis ça roule 120, 122, 125. Tout le monde roule plus de la limite permise et même plus que 120. Mais là, tu as le pont qui s'en vient, les gens arrivent à foule épouvante, puis là, la chaussée se resserre, tu passes de deux voies ou de trois voies à deux voies, puis là, tu rentres sur le pont, puis là, tu as cette fameuse voie de gauche là qui est à peu près la même que la voie de droite pour ceux qui arrivent de Montréal. Alors là, il y a comme un... faut être réveillé, tu sais, c'est sûr que... Surtout si t'es touriste ou si tu connais pas le coin, faut être réveillé, fait que mettre un photoradar là... Probablement que ça a eu de l'impact parce que ça fait en sorte que les gens ralentissent.
Mais ça
c'est l'objectif, en fin de compte.
Mais ça fait un effet élastique, Maître Bellemare. Tu sais, puis je veux pas être trop négatif, bien entendu, mais ce que ça fait, c'est que les gens ralentissent pour le radar, puis après ça, ils réaccélèrent tout de suite.
Oui.
Ils réaccélèrent. Fait que ça a servi à quoi de les faire ralentir? Parce qu'on se disait, ouais, mais là, il peut y avoir des accidents si les gens arrivent trop vite au pont et tout ça. Mais là, ça donne juste un effet élastique. Les gens arrivent au radar, ils ralentissent, puis après ça, ils remettent le gaz au fond. L'humain, il est ainsi fait, Maître Bellemare, là. Mais comme c'est payant, ouais. ils vont le laisser là.
Absolument.
Ah, Bruno Marchand, qu'est-ce qui se passe avec Bruno Marchand, Maître Bellemare? Il est tout le temps rendu en mission là, diplomatique, aller visiter le port de New York alors qu'il n'y a aucune connaissance là, portuaire. On sait pas trop s'il a rencontré le maire de New York. De ce qu'on comprend jusqu'à maintenant, il ne l'aurait pas rencontré. Là. Peut-être qu'il va nous sortir un lapin de son chapeau dans les prochaines heures. Mais là, il est en train de se préparer une nouvelle mission en Europe. Lui, es-tu dans sa tournée finale avant de se faire battre aux prochaines élections? Il veut se donner un maximum de voyages avant de partir?
Oui, en tout cas, ça va être intéressant, la prochaine élection, de compiler tous les voyages qu'il a fait. Puis c'est sûr que c'est toujours difficile d'évaluer les retombées, mais j'ai lu un billet de Karine Gagnon il n'y a pas longtemps, justement, je pense que c'est la semaine passée, qui disait la culture du secret, parce que le maire est parti à New York en plein mois d'août, et selon ce que Mme Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec, disait, il n'avait pas avisé de son départ. Il n'avait pas avisé les médias. Alors, c'est sûr que si tu t'en vas à New York, tu rencontres plein de monde. C'est une ville fantastique. Moi, New York, je vais 4-5 fois par année. J'ai tout le temps bien du fun quand je vais là. Du hockey, de l'opéra, des spectacles, des restaurants. C'est une ville fantastique, hein? Une ville qui ne dort jamais, comme Sinatra le chantait. Mais en même temps, tu es maire de Québec, puis tu t'en vas là-bas pourquoi? C'est sûr que si tu as des journalistes qui te suivent aux fesses, puis que tu es obligé de faire des points de presse quotidiens, puis même des fois deux fois par jour pour savoir ben, qui t'a rencontré, pourquoi tu fais ça. Mais je pense que c'est le prix à payer si tu fais un voyage politique qui vise à promouvoir la ville de Québec, qui vise à aller chercher de nouveaux apprentissages, qui t'accompagne, qui sont ces gens, quelle est leur expertise, qu'est-ce que ça va rapporter aux payeurs de taxes de Québec. Et honnêtement, là, le dernier voyage de Québec, on est encore sur notre faim. On n'a pas de détails. On ne sait pas pourquoi il est allé là. On ne sait pas ce que ça va rapporter. Puis effectivement, comme tu dis, c'est quoi l'idée d'aller voir le port de New York? Et pourquoi pas le port de Montréal? Et pourquoi pas le port de Bordeaux? Et pourquoi pas le port de Boston? Pourquoi il est allé voir le port de New York? Quel est l'intérêt particulier? Et combien ça coûte? Moi aussi, ça me préoccupe. Combien ça coûte, cette affaire-là? Les frais de déplacement, puis tout ça. Puis pourquoi faire ça au mois d'août? Est-ce que ce n'est pas une période très intense d'activité portuaire à New York? J'en ai aucune idée, mais il me semble que l'été, c'est toujours un peu plus tranquille. Il y a beaucoup plus de bateaux de passagers, moins de cargo. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Puis moi, quand un politicien d'envergure décide d'aller se montrer à l'extérieur puis qui amène une délégation avec lui. J'aime bien avoir le plus de détails possible parce que je trouve que, apparemment, c'est un des talons d'Achille de nos élus. On trouve qu'ils voyagent trop, on trouve que ça coûte trop cher. Puis pendant qu'ils sont partis ailleurs, il y en a qui ne sont pas ici. Ici pour gérer les inondations, ils ne sont pas ici pour gérer le touriste, le surtouriste, ils sont pas ici pour gérer les accidents, le retour à l'école, un paquet de dossiers qui intéressent la sphère municipale.
Est-ce que vous me parlez de Karine Gagnon, tu sais, que j'aime bien lire une fois de temps en temps, mais je suis rarement d'accord avec Karine Gagnon. Puis elle disait qu'on demande ça maintenant, là, aujourd'hui, aux maires des grandes villes de se promener pour faire des relations internationales. Qui demande ça? Personne demande ça. 2022, novembre 2022, France et Tunisie, ça a été les voyages du maire Marchand. Mars 2023, on l'a envoyé au Danemark, en Suède, en Finlande. Mais pourquoi il était là, tu sais? On a-tu des résultats aujourd'hui?
Mais il est allé voir les tramways.
Ben oui, c'est ça. Avril 2023, France et Belgique. Octobre 2023, encore. On retourne en France et Belgique parce qu'on se souvenait pas de ce qu'on avait fait en avril 2023, où on avait été en France et en Belgique. Mars 2024, Boston, où on sort de là. On était faire un tour avec le port de Québec à New York. On n'aura probablement pas de nouvelles de ça. Puis là, bon, on vient nous annoncer qu'il s'en va en France et en Espagne en automne 2024. Tu sais, pourquoi ces gens-là voyagent alors que dans leur ville, tout n'est pas parfait, là?
Mais écoute, le maire Marchand, il y a eu une époque, il y a à peu près un an et demi, où il voulait être maître d'œuvre du tramway, tu te souviens? Il disait, nous autres, la Ville de Québec, on est capable de gérer ça. On va construire ce projet-là, 3-4 milliards, on est capable, on a l'expertise, on est capable. Alors, c'est peut-être à cette époque-là qu'il allait voir en Europe, là, parce que c'est sûr que les tramways européens sont ultra performants, là, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'il y a tellement de monde et ils ont des systèmes parfaits, ultra sophistiqués, numérisés, toute la patente, et ça fonctionne parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement d'utilisateurs qu'ils ont les meilleurs au monde. Alors, on va voir ça, mais ce n'est pas dit qu'ici, on va avoir les mêmes performances. Mais j'imagine qu'à l'époque, il voulait, parce qu'il n'est pas diplômé en génie civil, le maire
exact,
Marchand. Là, je pense qu'il
exact.
Est à l'autre bout du spectre. Je pense qu'il est diplômé en philosophie,
en philosophie.
Ou en loisir ou en,
il est en
travail
philosophie.
Social. Je ne sais pas trop. Fait que c'est comme le maire Labombe, qui était sociologue. Hein,
sociologue.
C'est pas ça.
Hein. Oui, exact.
On a eu des maires qui avaient eu des bagages importants, mais au niveau comptable, au niveau des chiffres, le maire Lamontagne, peut-être dans les années 60, après ça, Jean Pelletier, qui n'était pas particulièrement versé sur les chiffres, le maire Lallier non plus. Alors, tu sais, je ne sais pas si on va avoir à la prochaine élection un choix d'une personne qui est véritablement issue du monde des affaires à Québec pour pouvoir s'assurer que les colonnes de chiffres sont bien alignées. Mais tu vois, à Québec, Legault, on a voté pour lui parce que c'était l'homme des chiffres, hein? Il y avait Air Transat, c'est un homme qui avait réussi en affaires. Et ça ne l'a pas empêché de nous claquer un déficit de 11 milliards au dernier budget.
Ouais, puis c'est un autre bon point. Je veux dire, est-ce que tout va si bien qu'il est obligé de faire des missions à l'étranger, tout ça? Je regardais ce matin un article d'une chroniqueuse qui est avec nous chaque semaine, Valérie Godreau. Elle parle de la taxe sur l'immatriculation. Bruno Marchand a mis un montant de, c'est quoi, c'est 10 $ là, pour ce qui est de l'immatriculation de plus que ce qu'on payait pour que cet argent-là puisse aller pour les transports collectifs. Et là, ben, il va devoir, dans quelques jours, se prononcer. Est-ce que ce sera 50 $ supplémentaires? Est-ce que ce sera 90 $ supplémentaires? On sait qu'il y a des villes comme Montréal où l'augmentation est épouvantable pour ce qui est du droit à l'immatriculation. Puis je regardais, tu sais, quand je vous dis que ça va pas toujours bien à Québec, puis pourquoi il s'en va en Espagne et en France alors qu'on a nos problèmes ici, le réseau de transport de la capitale, je regarde le déficit actuel, là. Ça, c'est le déficit pour 2024. Là. L'année n'est pas finie, imaginez-vous ça. Actuellement, le déficit est de 30 millions. 30
Ah ouais.
millions. Fait que pourquoi il sort? Pourquoi il sort ailleurs pour voir comment ça se passe alors que dans sa propre cour, ça ne va pas nécessairement bien?
Non, mais c'est ça. C'est pas un maire qui est axé beaucoup sur les questions comptables, les questions de gestion. Lui est arrivé à la Ville de Québec. Il s'attendait probablement pas à être élu, même qu'il l'a su à peu près minuit le soir. On sait comment ça s'est passé le soir de la dernière élection à Québec, quand on a déclaré vainqueur la nouvelle mairesse qui finalement ne l'a jamais été. Mais M. Marchand arrive là, puis écoute, il y a des problèmes de taxes, il y a des problèmes budgétaires, il y a des conventions collectives à signer. C'est un gros mandat, puis s'il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde qui sont nécessairement bien formés pour passer à travers ça. Le maire Marchand a été élu sur des concepts de type vivre en ville, l'habitation, la qualité de vie, les parcs, on va maintenir tant d'arbres, le tramway. L'écologie, les pistes cyclables, on voit que son discours, c'est un discours de gauche, c'est un discours axé beaucoup sur l'écologie, sur les changements climatiques, etc. Puis c'est un gars qui parle beaucoup, verbomoteur, il y a rarement une clip bien, bien précise, les réponses sont longues et complexes, mais toute la question budgétaire, je me souviens quand Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur du Canada, a dit que des maires incompétents en parlant de Marchand puis de Mme Plante à l'autre bout de la Vingt à Montréal. Ça n'a pas été long, ça a pris 3 mois à peu près avant que le maire Marchand arrive avec un plan très étoffé en disant on va construire tant de milliers de logements, puis on va bouger. Moi, je suis convaincu qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux, puis Poilievre a donné un bon coup de canne derrière, puis que ça a finalement eu des effets. Mais là, il a annoncé un plan, mais est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que ça va se faire? Ça devient encore assez compliqué pour les entrepreneurs de développer des projets immobiliers à Québec dans le résidentiel. C'est certainement une des causes de la crise du logement actuel.
Mais il commencera aussi à être le temps que pour Bruno Marchand de s'occuper des payeurs de taxes parce que notre capacité de payer est de moins en moins grande, là. Puis avec les nouvelles taxes foncières, là, le nouveau registre foncier qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, On va me dire que ma maison a pris quoi, 20, 30, 40 % en 3, 4 ans, puis on va me taxer en conséquence. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. Régis Labeaume, quand c'est arrivé la dernière fois, il y avait bien que c'était un carnivore là, pour ce qui est des taxes. Il avait réussi à limiter l'augmentation des taxes municipales, mais j'ai pas l'impression que le maire Marchand a les capacités à le faire. Et peut-être pas le vouloir non plus pour le faire. Autre dossier, Maître Blanc, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Je sais que vous faites du vélo, vous nous l'avez dit tantôt. Mais le service de police de la Ville de Québec a commencé à se prendre en main et à surveiller un peu ce qui se passe au niveau des trottinettes, au niveau des skates électriques. Tous les trucs qui vous permettent d'avancer de façon électrique, même les vélos électriques. Service de police qui a commencé à surveiller ces gens-là et ont donné des contraventions. Je peux vous dire que les trottinettes électriques, ils ont passé au cash des gens qui modifient leurs trottinettes électriques pour les faire rouler au-delà de 40 km/h. Moi, je vous l'avais dit, j'avais rencontré un homme de 75 ans qui avait modifié sa trottinette électrique. Sa trottinette pouvait aller jusqu'à 80 km/h, Maître Bellemare. Je me disais, à son âge, s'il se plante, c'est probablement la fin. Bien là, le service de police a décidé de mettre un frein à tout ça. Puis, on distribue des contraventions.
Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut avoir 18 ans pour être sur un vélo électrique. Hein. Puis, c'est pas toujours on dit que les personnes âgées de 14 à 17 ans qui détiennent un permis de classe 6D comme un cyclomoteur sont autorisées à conduire un vélo électrique. Mais si tu n'as pas ce permis-là, tu n'as pas le droit de conduire un vélo électrique. Puis, si tu n'as pas 18 ans, alors... Mais il y a beaucoup, effectivement, moi, je fais beaucoup de vélos sur les pistes cyclables, puis je peux te dire que depuis un mois, il y a beaucoup plus de vélos électriques et de trottinettes sur les pistes cyclables parce qu'ils se promènent sur les pistes cyclables parce qu'ils ne se font pas prendre par la police parce qu'il n'y a pas de surveillance. Alors, on dit que on appelle ça une bicyclette assistée, là, le cyclomoteur. Faut que ça soit une bicyclette, sa puissance électrique est de 500 W ou moins, vitesse maximale, 32 km.
Ouais, j'avais en tête 40 km, mais c'est effectivement 32 km. Mais la
32
plupart...
km, seule la force musculaire doit permettre au cycliste d'excéder cette vitesse sur une surface plane. OK, ça veut dire que si c'est le mode... Écoute, c'est tellement niaiseux. Va donc vérifier ça, toi, comme police. Tu sais, je t'ai vu pédaler. Tu pédalais pas, puis tu roulais à 34. Non, mais c'est 32 pour un véhicule moteur électrique. Mais à 32, sais-tu que c'est une bonne vitesse. Moi, quand je roule à 32 sur mon vélo, là, j'espère qu'il n'y aura pas de branche ou qu'il n'y aura pas de guêpe qui va venir me rentrer en dessous du casque. Alors, c'est... Mais écoute, en même temps, je comprends qu'il y a des personnes âgées qui ont besoin d'un véhicule électrique pour pouvoir avoir cette petite aide artificielle pour pouvoir pédaler et avoir du fun. Mais écoute, le cyclomoteur électrique, il s'agit d'un véhicule automobile. Sa puissance maximale, ça, on parle de cyclomoteur, on ne parle pas du vélo, là. Sa puissance maximale n'est pas limitée. Sa vitesse maximale est de 70 km ou moins. Il porte l'étiquette conformité standard Transport Canada, etc. Alors, ça c'est rendu compliqué. On n'est plus comme dans le temps des bons vieux Bessic puis des autos Ford et Chrysler. Là. Ouais. Aujourd'hui, je vais te dire une affaire, ça prend des policiers qui sont pas mal bien informés pour pouvoir contrôler tout ça. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrôle, en tout cas.
Avez-vous vu le gyro-roue?
Non.
C'est une roue électrique. Donc, vous avez, c'est comme un unicycle, en fait, là. Mais okay. Vous êtes là-dessus en équilibre, puis ça peut aller jusqu'à 100 km/h. Il y a 2-3 gars qui se promènent régulièrement à Québec avec le gyro-roue électrique, dont un qui faisait fureur sur les réseaux sociaux dans le temps qui s'appelait le gyro-fou. Mais c'est complètement capoté, ce nouveau moyen de se déplacer-là. Mais tu as l'impression que c'est une moto. Là. Ça va aussi vite, pas aussi vite, mais ça va extrêmement vite. Il peut atteindre 100 km/h avec seulement une roue, Maître Bellemare. Fait que moi, je suis pas pro-police au point de dire qu'ils doivent surveiller ça tout le temps sur la route. Moi, je me dis, les gens se déplacent sur la route comme ils peuvent, puis tant aussi longtemps qu'eux autres sont responsables de leurs affaires, ça dérange qui? Mais si vous êtes sur la piste cyclable, si vous êtes dans des endroits où vous allez plus vite que la moyenne, puis ça risque de blesser les autres, c'est là où moi j'ai peut-être un problème. Là. 100 km/h avec un gyro-roue sur la piste cyclable, c'est peut-être un peu exagéré. Là.
Oui, c'est ça. J'ai une petite question pour toi, parce que moi, là, quand je suis à vélo, j'haïs les autos, puis quand je suis en auto, j'haïs les vélos. J'ai toujours trouvé que c'était une incompatibilité naturelle. Et le partage de la route, j'y crois pas vraiment. Il faut être respectueux, mais en même temps, je pense qu'on va toujours avoir affaire à des extrêmes. Quand je suis à vélo, puis que je vois un feu rouge en bas d'une côte, là, puis que je vois que la côte remonte, là, c'est comme un coït interrompu, là, je te jure, là. Tu descends à bonne vitesse, tu es à 26, 27 km/h, puis à un moment donné, là, ça tombe rouge, là. Il n'y a pas de char qui vient en sens perpendiculaire. C'est comme un coït interrompu, je te dis, là, tu n'as pas de fun. Tu es obligé de t'immobiliser, puis après ça, tu es obligé de reprendre ta swing pour monter. C'est quasiment contre nature de respecter toutes les règles de sécurité routière quand tu es à vélo, puis quand tu as le goût d'avoir du plaisir, puis de performer. Alors, au feu rouge, est-ce que tu dois t'arrêter quand tu es à vélo?
Oui.
OK, complètement?
Là, vous m'avez pas demandé si moi je le faisais. Vous m'avez demandé est-ce que je dois m'arrêter quand je suis à vélo au feu rouge.
Complètement.
C'est oui.
OK, bien, tu as raison. Alors, il faut s'immobiliser complètement avant de repartir. Si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas simplement ralentir, même pour un stop, tu es obligé de respecter les mêmes règles que les véhicules. S'il y a un feu pour piéton, un petit bonhomme blanc là, qui te donne 30 secondes pour traverser, là, est-ce que tu as le droit comme cycliste de passer?
Ben là, je vais avec la logique, mais je ne connais pas le règlement. Oui, j'irai. Oui.
Tu peux passer à vélo?
Ben oui, j'irai.
Parce qu'il y a quelques années, il me semble que le Code de la sécurité routière disait que s'il y a un passage piéton, tu peux passer, mais tu es obligé de débarquer de ton vélo.
Ah, ça, je
Maintenant,
savais
ce n'est pas le cas. Alors, lorsqu'il y a un feu pour piéton qui est activé, tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de danger pour circuler, accorder la priorité au piéton, circuler à une vitesse raisonnable et prudente, mais tu dois t'immobiliser avant. Tu dois t'immobiliser pour regarder avant. C'est comme un stop. Tu ne peux pas rouler ton chemin sans nécessairement t'immobiliser. Tu dois t'immobiliser avant, mais tu peux traverser en autant que tu ne fais pas d'obstruction aux piétons. Alors, as-tu le droit de faire un virage à droite à vélo, comme les autos?
comme les... Oui. Oui, c'est possible de le faire, je pense.
OK. Alors, on dit si un panneau de signalisation interdisant le virage à droite est installé, tu n'as pas le droit, mais s'il n'y a pas de signalisation, tu as le droit de circuler. OK.
Mais
As-tu le droit de circuler?
j'en ai une
Hein?
pour vous, Maître Bellemare. Ça, c'est
Oui, vas-y
vous
donc.
êtes un imminent avocat. Je vais vous poser cette question-là. En fait, j'en ai deux, je pense, ouais. La première, si il y a un passage piéton qui est là, mais que c'est permis pour moi de tourner à droite, mais il y a un piéton qui est sur le passage piétonnier, est-ce que tant et aussi longtemps qu'il n'est pas arrivé sur le trottoir, je peux y aller
D'après moi, non.
ou
D'après
si...
moi, il faut que tu attendes que le piéton ait complété sa manœuvre.
OK. Ben, ce qu'on me dit, c'est que si le piéton n'est plus en danger, si on passe, c'est correct. On n'a pas besoin d'attendre que le passage piétonnier cesse de clignoter. Et la deuxième, est-ce que si vous
Donc,
êtes...
si le piéton est à mi-chemin, par exemple, il traverse le chemin Saint-Louis, puis il est à mi-chemin,
C'est ça, il est rendu sens contraire, mettons, là.
ouais, ou bien donc qui s'en vient vers toi, mais qui est dans le milieu de la rue, puis
C'est
qui
ça.
reste encore 20 secondes de bonhomme blanc, ça veut dire que finalement, tu as le droit de passer en autant que tu n'y passes pas dessus, là.
Mais faut il faut qu'il soit passé. Exact. J'en ai un autre. Si. J'en ai deux autres en plus. Je vais vous achaler. J'en ai deux autres. La première, si on a le droit de tourner à droite, mais que la lumière est rouge, si je suis le deuxième véhicule et je klaxonne le véhicule qui est en face de moi pour dire dégèle, Thérèse, vire à droite, t'as le droit, qui est en tort? Est-ce que c'est Thérèse qui attend ou c'est moi qui klaxonne après?
C'est toi qui klaxonne parce que le virage à droite, il est optionnel. Tu n'es pas
Ex
obligé de tourner à droite sur un feu rouge. Tu
exact.
peux tourner à droite, après t'être immobilisé complètement, puis avoir regardé s'il n'y a pas une poussette ou un mononcle ou une chaise roulante ou une trottinette qui va tout droit parce que ceux qui vont, toi, tu veux tourner à droite, mais ceux qui vont tout droit, ils ont le droit de passer en priorité. Mais c'est optionnel. Tu as le droit de rester là même s'il n'y a personne de l'autre côté, puis l'autre en arrière, il n'y a pas d'affaire à klaxonner. Donc, c'est à mon avis, tu n'es pas obligé de tourner à droite sur un feu rouge.
Puis la dernière, puis ça, j'aimerais qu'on
appelle. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça?
Vous avez raison.
Vas-tu m'envoyer mon chèque, là, mon
oui.
prix?
Oui, c'est dans la malle.
OK.
C'est dans la malle. Puis la dernière, là, j'aimerais qu'il y ait une sentence pénale là, qui vient avec cette infraction-là, là, peut-être 2 ans minimum. 2 ans moins un jour, tiens. 2 ans moins un jour de prison pour ceux qui circulent à gauche sur l'autoroute. Ceux qui circulent sur la voie de gauche à 100 km/h puis qui restent là pendant 10 minutes, c'est 2 ans de prison minimum. C'est vrai ou faux?
Ben c'est faux.
Je ne suis plus capable de ces gens-là, Maître Delmore. C'est des gens de votre génération. Ils se disent, l'autoroute nous appartient, on va rester à gauche parce que c'est plus beau, ça va être gauche.
Les gens meurent plus. Les gens meurent plus, Yann. Toi, t'es jeune, donc, mais les gens meurent plus. Je te dis, on a de plus en plus de personnes, des aînés. Et moi, je suis. Ma voix, c'est le chemin Saint-Louis. C'est oui. là que je vais. C'est là que je demeure. Puis bon, je suis très souvent sur le chemin Saint-Louis. Et là, il y a des écoles qui ont commencé. Fait que là, tu vas avoir du trafic d'écoles. Mais si tu vas sur le chemin Saint-Louis à 10h, 10h30 un jour de semaine, ou à 2h30, 3h un jour de semaine, puis tu veux rouler 70 sur le chemin Saint-Louis, tu ne seras pas capable. Parce que tu vas avoir du monde qui va rouler à 35, puis à 40, puis c'est régulier. Pourquoi? Parce que les gens ont des permis de conduire, de plus en plus vieux, les facultés sont diminuées, ils vont pas vite, ils sont prudents, ils sont lents, et c'est une réalité
qu'on
peut déceler très facilement.
Sur l'autoroute, là, ça a toujours été ça. Là. La voie du centre, c'est la voie pour voyager. La voie de droite, c'est la voie pour prendre l'entrée pour le boulevard, exemple. Ou la voie de droite, c'est la voie pour se lancer sur l'autoroute pour embarquer sur la voie de voyagement, qui est à dire la voie du centre. Mais la voie de gauche, ça a toujours été une voie de dépassement. Ça n'a jamais été une voie pour voyager là jusqu'à Montréal. C'est pour ça que je vous dis qu'il devrait avoir une sentence de prison très sévère.
Mais là où je mettrais une sentence de prison, c'est le monde qui rentre sur l'autoroute, puis le coco qui est à droite, il se tasse pour laisser rentrer le gars qui rentre puis qui ne regarde pas. Parce qu'il y a un CD quand tu rentres sur
CD
l'autoroute.
CD le passant.
Normalement, tu es supposé attendre que tout le monde ait passé avant de rentrer, parce que toi, tu es un nouvel arrivant.
Adapter sa vitesse.
Ils sont déjà sur l'autoroute en priorité. Mais l'autre fois, je te jure, là, j'étais à hauteur de Drummondville, là, puis je roulais à gauche. Puis il y avait une vanne en avant de moi, à peu près à 150 pieds, une grosse vanne. Je me demande si c'était pas une double vanne, un double transporteur. Il m'a coupé complètement le coco, là. Je sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, coco, à l'écoute, s'il vous plaît. Il se tasse à gauche, il me coupe le chemin pour laisser rentrer une pinotte, là, une petite Fiat, là, qui rentrait à hauteur de Drummondville, là. C'est extrêmement dangereux.
Ben oui.
Sa job, c'est de rester à droite puis de dire au coco qui rentre, « Mais attends ton tour, tu comprends-tu? » Mais ça, c'est, écoute, c'est généralisé au Québec sur la 40, sur la 20, sur Marc Crosseau. Ouais. Les gens rentrent sur l'autoroute sans aviser, sans ralentir.
Ouais.
Et les gens qui sont à droite se tassent à gauche, qui amènent un chaos. Puis je vais te dire, là, c'est juste au Québec que j'ai vu ça. En Europe, aux États-Unis, en Ontario, les gens ne font pas ça. Les gens respectent le CD. Quand ils rentrent sur l'autoroute.
Et à l'inverse,
j'ai quelques petites questions encore sur les bicycles.
Oui, allez-y.
Avant qu'on passe à d'autres choses, là. As-tu le droit d'être à vélo sur l'autoroute?
Est-ce que j'ai le droit d'être à vélo sur l'autoroute? Non,
ouais.
Mais je vois souvent des gens avec leur fameux triporteur. C'est souvent au début du printemps. Je les vois embarquer sur l'autoroute. Je ne sais pas pourquoi.
As-tu le droit d'être à vélo à l'inverse du trafic?
C'est une bonne question, ça. Celui-là est embêtant.
Tu veux être à vélo à gauche. Là. Tu ne déranges personne. Là. Tu veux aller à gauche, tu t'en vas à gauche le long du trottoir. T'as-tu le droit?
Mais y a-tu une attrape? S'il n'y a pas de trottoir, c'est un boulevard, il n'y a pas de trottoir, est-ce que c'est possible pour celui qui est à vélo de voyager sans ce contraire?
Non.
Non, OK. J'ai pas le droit.
Interdit.
Ben, Maître Delmore,
as-tu le droit de porter des écouteurs? As-tu le droit d'écouter tes tunes préférées, le 102.1, sur les oreilles, dans le tapis, à vélo?
Non, mais je me suis tout le temps permis de l'avoir dans une oreille.
Ben, un ou des écouteurs. Tu n'as pas le droit de porter un ou des écouteurs. Ça veut dire même pas un, parce que, écoute, tu es à vélo, tabarnouche, il faut tout bien que tu entendes les moteurs, les gens qui approchent.
Mais Maître Bellemare, c'est possible en véhicule d'avoir un écouteur seulement? Si vous êtes dans votre voiture, c'est légal d'avoir un écouteur à l'oreille?
Oui, en auto, probablement que c'est légal, mais à vélo, ça ne l'est pas, parce qu'à vélo, ben, tu es beaucoup plus vulnérable. Et j'ai une autre. Bon, les amendes maintenant, parce que tout ce qu'on dit là, c'est bien beau. On fait de la grosse philosophie sur le vélo, sur la prudence, la sécurité, puis la prudence, mais en même temps, combien tu vas payer d'amende si tu te fais pogner par une police qui voit que tu as passé sur un feu rouge à vélo? Tata!
100
Là, tu vas me
pièces.
dire 80 à 100 piastres. Mais c'est assez niaiseux. Un tout plus moins, là.
C'est pas assez cher.
100 piastres d'amende. 100 piastres d'amende, t'as brûlé un feu rouge à vélo, tu sais. C'est ça que je trouve, mais les amendes ne sont pas assez sévères. Effectuer un virage à droite quand la signalisation l'interdit. Alors, au fond, on dit les vélos, faites attention, puis c'est puis ça. Circuler avec un ou deux écouteurs, 100 piastres, c'est 100 piastres partout. C'est 100 piastres partout. Transporter un passager sur un vélo non adapté à cette fin, c'est super dangereux. 100 piastres. Omettre de signaler tes intentions, 100 piastres.
Mais Maître
Moi,
Bellemare,
j'ai jamais pogné de ticket
je vous
à
mets,
vélo.
Maître Bellemare, je vous mets juge en cour municipale. Là. Et là, moi, j'arrive, j'étais à vélo, puis j'avais juste une oreillette pour parler avec mon cellulaire pendant que je conduisais mon vélo. Pendant que je pilotais mon vélo, j'avais une oreillette, puis je parlais au cellulaire. Le policier
Ouais.
dit, t'as une oreillette, t'as pas le droit quand t'es à vélo. Je pourrais-tu gagner ma cause parce que j'ai fait preuve de bon jugement? Parce que si j'ai mon
Ben
cellulaire à
non,
la
le juge
main,
n'a pas le choix.
j'ai
Ben
pas le
non.
choix, il faut qu'il
Parce
fasse
que
appliquer.
la question du cellulaire, là, c'est marqué que tu n'as pas le droit de consulter l'information affichée sur un écran de visualisation, à moins que l'information sur l'écran soit utile à la conduite, que l'écran soit intégré à la bicyclette. Écoute bien, là. Intégré à la bicyclette ou installé sur un support fixe.
Ouais.
Et l'écran est positionné et conçu de façon à ce que le cycliste puisse le faire fonctionner et le consulter aisément. Alors, tu es doublement en infraction parce que tu n'as pas le droit d'avoir une oreille, un. Puis deux, tu n'as pas le droit d'utiliser un appareil électronique, deux. Parce que tu peux utiliser un appareil électronique à vélo sans avoir une oreille. Si c'est juste un écran, par exemple, que tu consultes. Mais si tu as les deux, ben, tu es passible de deux infractions, donc de payer entre 160 puis 200 piastres. Mais le juge, dès que la preuve est faite comme quoi tu as utilisé une oreille pour écouter de la musique, par exemple, un ou deux. Deux, c'est grave parce que deux, tu n'entends rien de ce qui se passe autour. C'est plus dangereux pas mal qu'à un, là. Un, à ce moment-là, tu vas payer minimalement 80 piastres. La seule discrétion, le seul pouvoir que le juge a, le jeu qu'il a, c'est entre 80 et 100 piastres pour chacune des infractions. Mais c'est quand même pas beaucoup, en
Donc,
tout et moins, là.
vous me déclarez coupable.
Ben oui, j'ai pas le choix. C'est clair, tu viens de dire, oui, mais la toune était bonne, monsieur le juge. Ben non, 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 non.
Comme disait l'autre, c'est un scandale, votre honneur!
150 % sur la route, 150 % concentration, monsieur, avec votre vélo, pour pas que vous soyez blessé puis que vous provoquiez des carambolages.
On va plaider coupable. On va plaider coupable, Maître Bellemare. Maître Bellemare, on va faire une courte pause et on revient tout de suite. Restez là.
Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin. Boulevard 102A.
On devait parler là, puis on va essayer de régler ça avec Jérôme 50.
Hey, c'est-tu Reg?
Hey, buddy, comment tu vas?
Moi, je suis en train de pogner un tournoi plus punk, plus anarchiste. Je suis bien déçu de la politique. Tu sais, avant, Catherine Dorion puis moi, on allait prendre une bière, on se flattait dans le dos, on disait à quel point c'était le fun d'être gauchiste. Mais là, j'ai envie d'être plus hardcore. Je sais pas pour vous autres, mais je sais qu'à Québec, essentiellement, il y a du chemin à faire pour rassembler le monde. Je trouve qu'on se rassemble pas assez. Les gauchistes, on est tout le temps ensemble, mais on se tient pas avec le monde de la droite. Comment ça se fait qu'un gauchiste qui sort à Rue Saint-Jean au Foubar, qui va jouer au poète à la librairie, il sort pas à Pyramide? Il faudrait que les gauchistes aillent à la Pyramide, puis le monde de la Pyramide vienne en deux. Puis là, on ferait peut-être une meilleure société.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le BLVD.fm et l'application mobile. 102.1 102.1
Aujourd'hui, chez Pharmaprix, ouvrez votre appli PC Optimum, magasinez votre offre sur les produits de beauté et accumulez 30 000 points, une valeur de 30 $. Conditions dans l'appli.
Le Festival du poulet de Saint-Damas en Chaudière-Appalaches fête ses 50 ans de jeudi à dimanche. Vendredi, on fait mariner vos oreilles avec un party DJ et Alcoalica qui rend hommage à Metallica. Samedi, sortez vos bottes. C'est Tommy Collins de show et le Coco Country Band qui enflamme le poulailler. Et pour les amateurs de sensations fortes, on a des cours de skate, des shows de boucan, des tirs de mini-tracteurs, un galop de lutte et même un derby démolition. Le tout arrosé de notre fameux poulet barbecue. Soyez là ou soyez des poules mouillées. Festivaldupoulet.com.
Bienvenue à votre oasis. Non, ce n'est pas un tout inclus dans le sud. C'est District GC, des appartements tout inclus sur la rive sud. Réservez le vôtre au logisco.com.
Matériaux D est à votre service pour vos petits et grands projets de construction depuis 1946. Venez nous voir pour tout achat des produits Mébec, le leader à Québec dans les revêtements. Pour toutes les offres, consultez la circulaire sur matériauxaudet.ca.
Salut, c'est PA Méthode. Aujourd'hui, nous faisons l'essai d'un camion Rogue qui m'a été prêté par Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Voyez avec quelle aisance je me faufile entre les cônes oranges, autant de l'avant que de reculons. Tout en buvant un café. En plus, il est pas cher.
Grâce à un taux de 0,99%, louez le Rogue S à traction intégrale à partir de seulement 86 $ par semaine. Alors, go Nissan!
Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer.
À compte 2 729 $.
C'est la plus grande liquidation de l'année chez Sale. Obtenez jusqu'à 60% de rabais sur des milliers d'articles de plein air de la saison en cours et des saisons antérieures. Soyez équipés été comme hiver avec Sale. Sale, votre destination plein air 100% québécoise.
Vivez l'action sur Max, avec des nouvelles enquêtes menées par Hudson et Rex et des nouvelles saisons de vos séries préférées.
Allez, au boulot.
Un max d'émotions, un max d'enquêtes, un max de nouveautés. Abonnez-vous.
D'importantes entraves sont prévues au pont de Québec durant le mois d'août 2024. Des fermetures complètes du pont seront requises pendant les fins de semaine, certaines se prolongeant jusqu'au mardi matin, ainsi que pendant les nuits en semaine du 4 au 30 août. Des épisodes de congestion sont à prévoir. L'horaire des fermetures sera confirmé dans les jours précédant leur mise en place. Consultez Québec 511 pour tous les détails. Un message du gouvernement du Québec.
Cineos Health, là où chaque témoignage fait la différence.
Allô, je suis Ariane, 24 ans. J'ai enfin trouvé une étude qui accepte la pilule contraceptive. Cineos Health recherche des femmes entre 18 et 45 ans. Vous pouvez continuer à utiliser votre contraceptif oral comme d'habitude sans aucune interruption. C'est une occasion rare, alors la laissez pas passer. 3 séjours en clinique de 4 nuits ainsi que 15 visites de retour et une compensation pouvant aller jusqu'à 8 850 $. Rejoins-nous et ensemble faisons la différence au gocineos.com. Groupe débutant au mois de septembre.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Inscrivez-vous aux journées portes ouvertes du Collège François de Laval les 21 et 22 septembre prochains. En plus de son programme enrichi en anglais, le CFDL propose une foule d'options stimulantes dès la première secondaire. Sport, arts, sciences, numériques et une offre parascolaire impressionnante. Afin de développer leur autonomie, le Collège offre à ses élèves d'évoluer dans un horaire flexible à des moments déterminés. Réservez votre place aux portes ouvertes des 21 et 22 septembre au collègefdl.ca. Au Collège François de Laval, deviens qui tu veux. Rien de moins.
Boulard. Saviez-vous que Denis Gravel a presque été champion de génie en herbe avant de faire de la radio? Et que Max Larouche adore se faire tatouer les numéros de joueurs de hockey? Maintenant, vous le savez.
Puis on parle aussi d'affaires pertinentes.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1.
Chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare et c'est encore une fois le cas ce soir. Maître Bellemare, je suis un peu déçu. Je pensais que vous alliez me déclarer non coupable tantôt d'avoir porté un écouteur à l'oreille pour pouvoir parler au cellulaire avec vous pendant que j'étais à vélo. Vous m'avez déclaré coupable. C'est 100 $ que vous m'avez enlevé des poches, là?
Oui, mais entre 80 et 100, mais si la toune est bonne, ça aurait pu être 80. Ça dépend ce que tu écoutes.
Ça dépend ce que j'écoute. Hey, on parle d'un autre sujet, Maître Bellemare, et ce sera le dernier de la soirée, le dossier de Régent Lallier qui a réclamé pour pour un incendie, plusieurs milliers de dollars. On parle de 700 000 $. Lui, il aurait mis le feu à sa maison, puis l'assureur, finalement, après enquête, a décidé qu'il ne toucherait pas un sou.
Le bonhomme, il descend en bas, ça va pas très bien, là. Il y a des problèmes financiers, puis il y a un fils handicapé dont il s'occupe. Alors, il descend en bas dans le sous-sol avec une chandelle puis un briquet. Il allume la chandelle, mais il oublie d'éteindre la chandelle. Alors, son explication là-dessus n'est pas trop sérieuse. Il dit, j'ai pas pensé, puis j'étais distrait, puis tout ça. Fait qu'il monte. Alors, la chandelle est allumée, bien sûr, dans le sous-sol. Il quitte la maison pour aller, semble-t-il, faire une petite commission avec son fils handicapé. Là, il est parti pendant 2 heures. Alors, là encore, là, tu dis, qu'est-ce que tu es allé faire pendant 2 heures avec ton fils handicapé pour une commission qui, normalement, aurait dû durer 20 minutes. Il part longtemps. Après ça, il revient chez lui après cette cabale-là. Et là, il s'aperçoit qu'il y a de la fumée. Mais là, il dit, je vais appeler la police, les pompiers, pour dire qu'il y a de la fumée. Mais il est en chicane avec son voisin, fait qu'il ne va pas cogner chez son voisin, même si la fumée, ça veut dire qu'il y a quoi qui se passe de grave dans la maison. Peut-être qu'il y a une occasion de passer à côté de sa petite chicane. Mais là, il dit, je m'en vais au dépanneur pour trouver un téléphone, mais il va au troisième dépanneur qu'il rencontre, pas au premier, pas au deuxième, il va au troisième. Fait qu'il étire la sauce. Et à un moment donné, la maison passe au feu. Puis là, il demande... 700 000, puis là-dedans, je pense qu'il y a à peu près 150 000 de biens de toutes sortes qui dit qu'il a perdu dans cet incendie-là. Alors, le juge ne l'a pas cru. Et Beneva, qui est l'assureur, a décidé qu'il ne payait pas. Et le juge ne l'a pas cru. Et compte tenu, bien sûr, que la police, comme toutes les autres polices d'assurance maison, prévoit que si tu es responsable du feu ou du sinistre qui a endommagé ta maison, que ce soit par l'eau, que ce soit par la fumée, que ce soit par le feu, à ce moment-là, l'assureur, bien sûr, n'est pas obligé de payer. Fait qu'il y a eu un procès. Et puis, monsieur a perdu sa cause. Et puis, il va devoir supporter les 700 000 $ de perte. C'est quand même quelque chose. Yeah. C'est sûr que, tu sais, ça peut être une négligence. Ça peut être une imprudence. La plupart du temps, tu n'es pas responsable de rien. Tu sais, c'est un incendie qui a été déclenché, un problème électrique, un problème de... Tu sais, c'est pas... Tu sais, l'assureur doit quand même faire la preuve qu'il y a eu... Une négligence grave, grossière ou une volonté de mettre l'incendie, de mettre le feu à ta maison. Parce que l'assureur assure un risque et assure un accident et non pas quelque chose qui est provoqué volontairement. Alors, simplement pour vous dire, si vous avez l'intention de mettre le feu à votre maison, si vous êtes écœuré de votre maison, vous voulez mettre le feu, soyez un petit peu plus brillant parce que les assureurs ne sont pas des imbéciles. Ils font des enquêtes, puis les juges encore moins.
Ouais.
Les juges qui entendent les témoignages vont devoir vérifier tout ça. Et puis, il y a quand même peu de cas qui se rendent devant les tribunaux. Bien des fois, l'assureur va refuser. Il va y avoir un règlement hors cours en cours de route. Mais là, je pense que l'assureur avait vraiment une bonne cause. Ouais. Puis M. Lallier, malheureusement, 700 000, je pense que s'il était pauvre avant, il est pas mal plus encore là.
Mais je présume, Maître Bellemare, que quand il est revenu dans sa maison... le feu n'avait pas pris partout parce que il y avait de la boucane, ça, il l'a mentionné, mais il a décidé qu'il allait prévenir la police. Mais il n'y avait pas de téléphone cellulaire, malheureusement, puis il n'est pas en bon terme avec ses voisins. Donc, c'est il ça. S'est dit, je vais aller au premier dépanneur pour contacter le 911, sauf que après enquête, on s'est aperçu qu'il a passé 2 dépanneurs. Il est allé au troisième plus loin. Donc, il voulait laisser le plus de temps possible au feu de se propager, de ce qu'on comprend.
C'est ça. Non, mais il faut être nono pareil, là, tout et moi. Si tu veux faire vraiment un mauvais coup, une grosse passe, là, assure-toi donc de faire une grosse passe, d'en faire une seule, de la faire grosse, mais de la faire bien organisée. Tu sais, quand même. T'sais, des fois, je regarde ça, je me dis, comment les gens peuvent penser qu'ils sont... crédible à raconter une histoire comme ça, puis aller devant le juge, ça coûte de l'argent, tout ça, là, ce monsieur-là, il y a eu des frais, et le juge l'a tellement pas cru qu'il l'a condamné, ce monsieur-là, parce que le juge, il a le droit de condamner aux frais. Quand il rejette une poursuite, ou même qu'il l'accueille, il peut dire, moi, je dis que c'est telle partie qui va payer les frais. Les frais, c'est évidemment la sténographie, les frais d'expertise, les frais de cours, etc. Ce sont des frais, pas les honoraires des avocats qui chargent tant de l'heure pour défendre la personne, mais les frais un peu plus matériels entourant la cause. Là, c'est, ce monsieur-là était condamné à payer les frais de la compagnie d'assurance aussi. Fait que c'est un peu une espèce de mesure punitive que le juge peut imposer quand ils considèrent qu'il y a vraiment un abus de procédure.
Maître Bellemare, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, on peut vous contacter chez bellemareavocat.ca.
Absolument, à votre service.
C'est toujours un plaisir. La semaine prochaine, je vous donne congé, Maître Bellemare.
Ah, c'est gentil. Alors, on va se revoir le 9, probablement, qui est le lundi suivant. Exact. 9 septembre. Alors, bon congé à tout le monde et bonne rentrée scolaire.
Passez une belle soirée. À toi aussi. Ben oui, effectivement, la semaine prochaine, lundi, on sera tous en congé. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain 10h avec Audrey sur les ondes du 102.1 pour l'Open Mic. Salut, à demain. Ciao.
Marceau, le soir.
Aujourd'hui, chez Pharmaprix, ouvrez votre appli PC Optimum, magasinez votre offre sur les produits de beauté et accumulez 30 000 points, une valeur de 30 $. Conditions dans l'appli.
Du 12 au 14 septembre, en collaboration avec Molson Export, c'est le retour du festival Envolé Macadam à l'Agora du Port de Québec. Avec Dropkick Murphys, The Hives, The Bouncing Souls, Cro-Mag, Race Fist
et plus de 40 bandes qui se produiront au centre-ville de Québec.
Le festival Envolé